quand vous venez dans un stade, vous ne pouvez pas faire quelque chose à minima. Il y a toujours quelque chose de grandiose.
Bienvenue dans Archi Intéressant, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Dans cette saison 3, suivez-nous à la découverte des lieux les plus connus du sport, les stades, pour comprendre comment ces infrastructures, par leur histoire, leur architecture et leur fonction, se sont imposées dans le paysage français. Dans cet épisode, direction Lyon et le Groupama Stadium avec le journaliste Quentin Tenot.
Nous sommes le 13 décembre 2023 dans l'OL Vallée, un quartier flambant neuf installé à Décines-Charpieu dans la banlieue est de Lyon. La foule qu'on entend, c'est le public de Sting, dont le concert commence dans moins d'une heure. L'hiver approche, le concert n'aura donc pas lieu dans le Groupama Stadium construit en 2016. Il se jouera juste à côté, dans la LDLC Arena, qui vient tout juste d'être inaugurée. En attendant que le concert débute, j'ai rendez-vous avec Xavier Pierrot, le directeur de ces deux infrastructures.
Moi, je fais ce métier pour avoir le regard des gens quand ils sortent du stade après. Dans le foot, ça dépend du résultat sportif. Dans un concert, c'est vraiment tout ce qu'ils ont vu de magique, le show qui va avec. Plus il y a de gens qui viennent et qui repartent avec le sourire, et plus nous et nos équipes, ça nous rend heureux.
Les gigantesques shows français et internationaux font désormais partie intégrante de la vie du stade. Les 7 à 8 semaines sans match permettent l'organisation de 7 à 8 événements chaque été, avec une logistique millimétrée pour passer de la disposition foot à la disposition concert.
Alors il y a effectivement maintenant quelque chose qui est bien rodé, c'est-à-dire que dès que le dernier match est fini, on a deux équipes qui rentrent en jeu tout de suite. À minuit, après le match de Reims en mai 2023, vous aviez une première équipe qui se charge de démonter des sièges pour créer des grands escaliers, puisque l'une des grandes différences entre un concert et un match de foot, c'est que vous avez du public sur la pelouse. Donc il faut démonter des escaliers pour que le public puisse passer des coursives à la pelouse. Donc là, il y a quatre énormes escaliers à créer justement dans les tribunes basses du stade. Donc là, on a une première équipe qui intervient là-dessus. Puis la deuxième équipe, elle est là, c'est les jardiniers du stade. Puisqu'en fait, je dis sur la pelouse, mais c'est pas vrai, puisque la pelouse, elle est retirée justement. Elle est ce qu'on appelle scalpée. On la coupe complètement et on met des plaques lourdes métalliques dessus pour que les camions puissent rouler. Donc c'est vraiment les deux grandes opérations qui sont à faire très très rapidement dès la fin du dernier match de foot de la saison pour ensuite pouvoir accueillir les équipes des tournées avec ces camions qui rentrent sur les pelouses et puis monter les scènes, installer les structures, que ce soit pour le son et la lumière, mais ça arrive dans un deuxième temps.
Le stade est prêt pour accueillir les concerts. Des dizaines de milliers de spectateurs vont assister à des shows légendaires, mais quid de la qualité du son ? Car un concert dans un stade, ce n'est pas un concert dans une salle.
Quand vous venez dans un stade, vous devez venir déjà en vous disant « bon, le son, c'est pas ce que je vais écouter en premier, parce qu'on est dans un stade, parce qu'il y a beaucoup de métal au niveau de la toiture, parce qu'il y a du béton, donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une acoustique de qualité. Mais par contre, vous venez voir un show qui est extraordinaire à chaque fois pratiquement. »
Parmi les événements accueillis par le Groupama Stadium, il y a eu Indochine. C'était en 2022 et ça a été le plus gros concert dans ce lieu avec 72 000 spectateurs. En 2022, Indochine a fait 6 stades en moins de 3 mois. Alors j'ai appelé Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, pour savoir comment le groupe gère cette question de la qualité du son dans les stades.
Beaucoup de gens sont déçus sur les concerts de stade par rapport au prix des places, parce que c'est extrêmement cher, et par rapport effectivement au fait qu'on n'entend rien, etc. C'est l'essentiel du problème, et c'est le paradoxe, parce qu'un stade, de toute façon, n'est pas fait pour diffuser de la musique, donc il faut réfléchir à ça. Donc en fait, c'est tout un travail en amont, avec nos équipes techniques, les ingénieurs du son, etc. On a maintenant sur ordinateur toutes les 3D des stades, et les performances sonores que ça peut engendrer.
Alors, au-delà du son, il faut penser la qualité du show. Le leader d'Indochine fait un choix que tous les artistes n'osent pas faire, installer la scène au centre du stade, au milieu du public, pour suivre la logique architecturale du stade. Mais ce choix implique des écrans à 360 degrés, ce qui ajoute un autre défi.
Moi, ce qui m'a toujours déprimé, c'est de voir les grappes de son qui cachaient les images. Donc nous, on a inventé un système avec une société qui s'appelle PRG, de mettre le son à l'intérieur des écrans. Donc le son ne gâche pas la visibilité de personne. Faire un concert dans un stade, c'est une préparation qui prend presque 2 ans. Il y a plein de choses à gérer. Je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient. Il y avait, je ne sais plus combien, 80 semi-remorques en déplacement. Il y avait dans notre équipe, ouais, en permanence, il y avait 300, 400 personnes sur le jour J. Mais l'installation, c'est à peu près 1000 personnes. Ouais, à peu près, ouais. C'est des équipes de 3-8. On monte une sorte de ville éphémère pour un concert de 3 heures. Ça prend une semaine de montage et 2 jours, 3 jours de démontage. C'est effectivement la montée sur scène. C'est pas parce qu'on est dans un stade qu'on ne communie pas avec le public. Il y a quand même des moments de grâce incroyables. Réunir autant de personnes qui sont focus sur un artiste comme ça, si on se dit mais c'est un cadeau énorme. On n'est pas beaucoup à pouvoir vivre ça dans la musique.
Les stades contemporains sont pensés pour accueillir du sport comme des spectacles. Et le tout est pensé comme un véritable business. D'ailleurs, le jour où le groupe OL est entré en bourse en 2007, son PDG, Jean-Michel Aulas, a déclaré
« Nous ne sommes pas un club de foot, mais une holding de divertissement ».
Jean-Michel Aulas a repris le club en deuxième division en 1987. Il a rapidement eu envie de faire progresser le club et de le structurer comme une entreprise. On est remonté très rapidement en première division et puis après, il y a eu différentes étapes. Et lorsqu'on fait le benchmark dans les années 2005 de ce qui se pratique en Europe, on s'aperçoit très rapidement que dans les 20 plus grands clubs européens, il y en a 16 sur les 20 qui sont propriétaires de leur stade avec des stades beaucoup plus modernes que ce qu'on avait sur le stade de Gerland.
Gerland, c'est le stade historique de l'OL. Il appartient à la ville de Lyon et est classé monument historique, ce qui rend difficile les travaux d'agrandissement. Alors, en 2008, Gérard Collomb, le maire de Lyon à cette époque, propose au club d'acheter un terrain à l'est de la ville. À cette époque, ici, c'est la campagne. Il y a quelques parcelles industrielles en friche, quelques champs exploités par des agriculteurs et des petites maisons. Je me demande comment on accueille l'arrivée d'un stade juste à côté de chez soi. Alors je traverse le parking et vais sonner à une porte. Le monsieur qui m'ouvre s'appelle André Darco.
Depuis mon jardin, depuis ma maison, on voit le stade et on voit toutes les lumières du stade, puisque c'est le stade des lumières. Et quand on pense stade, tout de suite on pense nuisance, circulation, embouteillage, pollution. Et en examinant encore de plus près les dossiers, on se rend compte qu'il y a de l'argent public qui est dépensé, et l'argent public c'est nous. On a créé une association et on s'est battu de différentes manières, par des manifestations et aussi par de nombreux recours.
On passe au football et à une grosse journée pour l'Olympique lyonnais avec tout d'abord une manifestation en ce moment même à Lyon des opposants au futur stade de l'OL.
Alors que André Dargaud m'explique que ce qui le dérange le plus en tant que citoyen, c'est que les collectivités publiques aient dépensé des centaines de millions d'euros et vendu des terrains bien en dessous du prix du marché pour servir des intérêts privés, ceux d'une entreprise cotée en bourse. L'affaire a été portée devant les tribunaux et a pris une tournure politique nationale. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, a fait voter un amendement à l'Assemblée nationale pour que le stade soit déclaré d'intérêt général.
Il y avait beaucoup de peur, en fait, liée à l'inconnu. Et je crois qu'on peut dire que 8 ans après, les Dessinois sont plutôt fiers d'OL Valley. Donc c'était un problème plus d'acceptation, de peur, de méconnaissance. Peut-être sans doute qu'on a mal communiqué aussi à l'époque, qu'on n'a pas réussi à faire passer nos messages. Mais donc on a pris du retard. Tous les procès ont été gagnés, ce qui prouve que le dossier était solide. Mais ça nous a fait perdre pas loin de 3 ans.
Finalement, le stade est inauguré en 2016. En France, c'est le premier qui appartient à un club. Retour au concert de Sting à la LDLC Arena qui vient tout juste d'être inauguré et où des concerts pourront avoir lieu toute l'année. Juste avant le show de ce soir, Xavier Pierrot me l'a fait visiter.
Et bien là, on est dans la LDLC Arena au milieu de ce qu'on appelle le bol. Donc on est à l'intérieur d'une enceinte close, il fait bon, on n'a pas besoin d'avoir un gros blouson l'hiver. On est vraiment en indoor contrairement au stade où on était en outdoor.
Cette arena a été construite pour accueillir des concerts, mais pas seulement. La place du sport y est aussi centrale. Elle a d'ailleurs été pensée main dans la main avec Tony Parker, le président de l'équipe de basket de Lyon-Villeurbanne, qui cherchait une salle capable d'accueillir plus de 10 000 spectateurs pour assister à des sports d'intérieur. Le projet est lancé en 2019, cette fois-ci pas de recours en justice, la construction va vite et l'aréna est inaugurée le 23 novembre 2023. Alors pourquoi construire une aréna juste à côté d'un stade ? Pour Xavier Pierrot, les deux enceintes sont complémentaires.
Je ne vais pas faire le jeu des 7 erreurs, mais en gros, vous avez de l'outdoor d'un côté, de l'indoor de l'autre. Vous avez des méga-sports comme le rugby et le foot d'un côté. Là, c'est plutôt des sports intérieurs comme le basket dans un premier lieu, mais également possibilité de tennis, du futsal, du hockey sur glace, du handball, du volley ou autre. Ensuite, vous avez en termes de concerts, l'artiste, quand il fait une tournée, il décide tout de suite si c'est une tournée de stade ou une tournée de salle. Donc souvent la question qu'on me pose c'est mais ça veut dire que vous allez faire moins de concerts au stade? Non, parce que les artistes continuent à faire des tournées outdoor. Quand vous êtes en tournée de salle, et ben là le marché il est 365 jours dans l'année puisque vous n'êtes pas lié aux intempéries, au climat, et donc on a des tournées qui peuvent se faire mais sur des scènes beaucoup plus petites. Là vous êtes plutôt pour un côté acoustique, pour le côté intimiste, puisque vous avez moins de 100 mètres entre le siège le plus loin de la scène et la scène, ce qui pour une salle de cette taille, c'est-à-dire avec plus de près de 16 000 spectateurs, est quelque chose de très réduit. C'est les qualités de l'architecte de Populous d'avoir réussi à garder une salle compacte avec une aussi grande capacité. Alors même si on est quand même sur 13 000 ce soir par exemple sur Sting, on peut monter jusqu'à 16 000 spectateurs pour des fosses debout, donc on est quand même sur des volumes assez importants, mais par contre en termes d'acoustique on va être au rendez-vous.
Sting enflamme l'aréna pendant plus de 2 heures, le public est conquis.
J'ai trouvé qu'on était quand même très en proximité de la scène, donc c'était vraiment, vraiment super. Le son était excellent, très clair, avec une bonne répartition. Enfin, je suis conquis par la nouvelle salle en fait.
Le son bien mieux que le stade.
Le meilleur son et on voit de mieux, même si on est loin, c'est très bien.
Après 2 heures de show, les spectateurs repartent conquis. Dans les coulisses, des centaines de travailleurs de l'ombre s'activent dans la salle. Pas question d'attendre pour le démontage, il faut préparer la salle pour un autre événement qui a lieu dès le lendemain.
Ce soir, on a nous on l'appelle dans notre jargon le premier back-to-back, c'est-à-dire que ce soir on a Sting, dès qu'il est fini, démontage de la scène en urgence, et il faut que demain à 10h on soit en mode basket, puisqu'on aura un match d'Euroleague demain soir, et les équipes viennent shooter dès demain matin, faire leur entraînement de shooting. Donc les équipes vont travailler toute la nuit pour rapidement passer de cette configuration concert, avec des chaises dans la fosse, avec une scène, à une configuration parquet, panier de basket, voilà, totalement différente. Donc ça va être le premier enjeu, et c'est la particularité de cette salle, où on souhaite pouvoir changer les configurations le plus vite possible et multiplier le nombre d'événements à l'intérieur de la LDLC Arena.
Tout comme le stade, l'aréna peut se transformer en une nuit. Il est minuit, les machinistes démontent la scène pendant que l'équipe de la salle retire les chaises. Ensuite, le parquet stocké sous la tribune sera sorti, réinstallé plaque par plaque pour recréer le terrain de basket. On amènera les paniers, la table de marque, et quand la scène sera complètement démontée, on dépliera la tribune rétractable. Alors, le bruit des rebonds pourra remplacer celui des percussions.
Vous avez écouté Archi Intéressant, un podcast du Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, réalisé par Quentin Tenot, suivi éditorial Josépha Lopez et Emmanuel Davidenkoff.